There is nothing so wonderful in the world as telling stories.
Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment.
It is true, I am a woman.
Une fois que ce saut est fait, tout devient possible.
Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation? Quels sont leurs rituels d'écriture? Qui les lit et que lisent-elles?
Sarah Jolien-Fardel, quel drôle de romancière vous êtes! Et quel puissant premier roman vous nous avez livré avec Sa préférée aux éditions Sabine Weispeiser. C'est un livre court, ramassé, de ceux qui se lisent d'une seule respiration, de ceux que lecteurs et lectrices adorent, et c'est sûrement pour cela qu'il a été couronné du prix du roman Fnac 2022. Mais c'est aussi un livre sombre, rêche, réaliste, qui s'empare d'un sujet ancré dans l'époque actuelle, la violence masculine. Il y est aussi question de résilience, d'amour, de pardon, de désir et de volonté. Et puis c'est un beau portrait en creux d'une région montagneuse de Suisse, le Valais, dont vous êtes, comme votre héroïne, originaire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le podcast des rendez-vous littéraires.
Merci à vous de m'accueillir, Lorraine Bastide. Merci.
Alors Sarah, vous avez publié votre premier roman à 51 ans. Mais c'est un roman si réussi, si mûr, qu'on a du mal à l'envisager comme une entrée en écriture. Et de fait, vous écrivez depuis longtemps, puisque vous êtes journaliste. Vous lisez beaucoup aussi. Comment s'est faite votre rencontre avec l'écriture?
Eh bien, presque en même temps que la lecture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai su lire, je n'ai plus arrêté de lire. Et très vite, j'ai voulu écrire. D'ailleurs, le premier chapitre, il y a cette histoire où l'héroïne dessine un tigre, elle raconte une histoire. En fait, ça, c'est vraiment la première histoire que j'ai amenée pour de vrai à l'école. J'étais aussi celle qui écrivait les discours de mariage, les cartes d'anniversaire, les mots à l'église pour les enterrements. On en a eu beaucoup, malheureusement. Et d'une manière assez hautaine et décidée, à partir de 5-6 ans, je disais que je serais écrivaine.
D'accord. Donc, vous étiez un peu l'écrivaine publique de votre famille et de votre entourage. C'est intéressant.
C'est ça, oui.
Et effectivement, je voulais qu'on parle de cette scène où l'enfant, donc Jeanne, votre héroïne, quand elle est enfant, bricole de petites histoires et de petits livres. Et c'est plus qu'un simple dessin de tigre. Il y a vraiment le plaisir de plier les pages, de les relier pour que ça forme un livre. Ça, c'est une scène dont vous aviez le souvenir réel de votre enfance.
Ah oui, oui, vraiment. Et vraiment l'objet. Je suis incapable. J'ai besoin des livres. Je trie ma bibliothèque une fois par an, depuis Marie Kondo en fait. J'ai mis des années à le faire. Et du coup, une fois par an, je retrie ma bibliothèque par ordre alphabétique et je les amène chez Emmaüs où maintenant, en fait, je les donne. Je suis bénévole dans un foyer pour femmes battues depuis 2019, donc j'amène mes bouquins que je trie. Et il m'est arrivé, au grand désespoir de mon mari, de retourner chez Emmaüs les acheter. Ce que j'avais amené une semaine plus tôt, parce qu'en fait, d'imaginer que ces livres n'étaient pas là dans les chroniques de San Francisco, j'avais toute la collection, enfin voilà, je suis retournée les racheter, quoi.
Ah, c'est marrant. Il y a un attachement très fort, en fait, à l'objet livre
oui.
Et au papier.
Ça peut être une raison de dispute avec des amis si on ne me les rend pas.
Mmh. En plus, les livres, on oublie toujours à qui on les a prêtés.
Ouais,
c'est terrible.
Oui.
Vous venez de faire allusion aux chroniques de San Francisco et je voulais vous poser maintenant quels étaient les auteurs ou autrices qui vous avaient inspiré. Alors, il y a Paul Auster qui est cité abondamment voilà, dans sa préférée. Mais ce que j'ai trouvé rafraîchissant, c'est que vous faisiez aussi allusion à la littérature populaire, sentimentale, au roman Harlequin, qui sont des moyens d'évasion de la mère de Jeanne, votre héroïne, et aussi les premiers contacts de cet enfant avec le livre, avec même la littérature. Est-ce que c'était volontaire de votre part de faire rentrer cette littérature de gare dans votre premier roman?
En fait, je me suis vraiment plongée fait. Ce n'est pas une autobiographie, vraiment, je n'ai de cesse de dire ça, mon père, le pauvre. Mais par contre, c'est complètement ancré dans le réel. Et donc, je me suis vraiment plongée dans mes souvenirs. Et moi, je viens d'un petit village, il n'y avait pas de librairie. On avait ce bouquiniste. À l'époque, il n'y avait pas de livres pour jeunes. C'était vraiment, on avait des bouquins de gamins et très vite, on passait à la littérature pour adultes. Et j'ai vraiment une scène avec ma grand-mère où j'ai demandé à avoir un livre pour adultes et ma mère voulait pas me donner elle voulait me donner quelque chose un peu, une buette, très fleur bleue. Donc en une journée, je l'avais lu. Elle croyait pas que je lisais aussi vite. J'ai raconté l'histoire et surtout, je lui ai rendu le livre en lui disant « plus jamais ». C'est fini. Et j'ai vraiment dû me battre pour lire certains livres, dont moi, Christiane F., droguée, prostituée, ce qui a été vraiment un livre incroyable pour moi. C'est comme Paul Auster, en fait. Paul Auster, ça a été un choc. J'étais dans un train et je sortais avec un garçon qui avait acheté la trilogie new-yorkaise. Je ne peux même pas dire ce que j'ai éprouvé en lisant la trilogie new-yorkaise. Et depuis, j'ai acheté tous les livres de Paul Auster.
Il y a un petit fétichisme quand même de l'objet livre chez vous, voilà. C'est intéressant.
Oui, c'est vrai. Donc effectivement, j'ai mis certaines petites lectures qui m'ont plu et presque de manière, vous avez raison, presque volontaire, j'ai fait exprès de ne pas mettre... je ne sais pas, moi, Emma Bovary, que je n'aime pas et que je veux relire. Enfin voilà, tous ces grands classiques ou quelques philosophes qu'on lisait à l'adolescence en pensant qu'on était très, très intelligente.
Mais moi, ça m'a plu parce que je pense que quand on ne vient pas d'une famille très lettrée ou très bourgeoise, où il y a des bibliothèques très fournies, on s'éduque à la littérature de la même façon. Moi, je me rappelle que Paul Auster, c'est pareil, quand j'avais 19-20 ans, ça traînait dans la bibliothèque de mon père et c'est aussi un des premiers romans que j'ai lus et ça m'a impactée. Ça parlait aussi d'un monde... l'Amérique, qui faisait rêver, etc. Donc, moi, je me suis identifiée beaucoup à ça et aussi à cette littérature que beaucoup de femmes lisent par envie de se divertir, la littérature sentimentale, romantique. Il n'y a pas de raison de la mépriser,
quoi.
Oui,
c'est vrai.
Donc, merci pour ce geste. Qu'est-ce qui a fait qu'un beau jour, vous êtes enfermée seule pour écrire ce livre-là ? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ?
Oui, il y a eu plusieurs étapes, en fait. Donc, j'ai toujours voulu écrire. Donc, j'ai beaucoup écrit des poèmes quand j'étais ado, des trucs, enfin voilà. Ensuite, j'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit plusieurs histoires. J'ai écrit un autre roman qui était complètement terminé, qui s'appelle Les Figuiers. Et ça ne tenait jamais. Et en fait, en 2016, pendant l'hiver, je marchais et je me suis, comme ça, toute seule dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce qui serait... Si tu devais mourir, enfin, la mort est une de mes obsessions, il y en a dans le livre, mais pour de vrai, c'est vraiment une obsession voilà, personnelle et quotidienne. Et je me suis dit, et si tu mourais là, qu'est-ce qui serait le plus horrible que tu n'aies pas fait ? Et alors que j'ai deux fils, enfin plein de choses, je sais pas, j'aurais... Et la réponse a été de ne pas publier de livre. C'était pas de pas écrire puisque j'écris. Et en janvier, j'ai commencé ce livre. Voilà, c'était vraiment, si je devais mourir et que je n'aurais pas un livre publié, c'était vraiment insupportable.
Et c'était ce livre-là, cette histoire-là, qui allait devenir votre livre publié.
Comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout mon histoire, mais il se trouve qu'autour de moi, il y avait vraiment beaucoup de violence dans la famille plus ou moins éloignée. Et surtout, j'étais très, très en colère parce que dans les années 70, dans un village de montagne, être une femme ou être une enfant, être une fille, ben, de fait, c'était difficile, c'était injuste et c'était violent. Pour info, vous qui êtes française, peut-être que vous ne le savez pas, mais le droit de vote des femmes en Suisse est né l'année de ma naissance.
Ouais.
En 71.
Ouais.
Et c'était des révoltes voilà, ça m'a habité et ça m'a jamais quitté.
Peut-être que c'est un peu le récit de votre vocation de journaliste aussi qui est en train de naître à ce moment-là. Qui sait ?
Oui, peut-être. Ouais. Ma grand-mère rêvait d'être journaliste, en fait. Et voilà, ça a été cette colère aujourd'hui qu'on a pu beaucoup me reprocher. Mmh. Cette insoumission, en fait, je trouve que... Enfin voilà, aujourd'hui à 51 ans, je peux dire qu'elle était vitale et nécessaire.
Est-ce que vous avez du mal à vous définir comme romancière ?
Complètement. Je refuse qu'on dise que je suis écrivaine. Mais quand j'en aurai écrit plusieurs, éventuellement, donc auteur, ça va. Auteur, parce qu'on peut écrire des livres de cuisine, de yoga.
D'accord. Bon.
Non, okay. J'ai un peu de peine, j'ai trop d'admiration et trop de respect pour les écrivaines et écrivains. Non, j'arrive pas.
Vous vous rappelez de l'émotion que vous avez ressentie quand vous avez eu ce livre, le livre, l'objet lui-même, relié entre vos mains la première fois?
En fait, si vous voulez, ça a été tellement long pour l'avoir. Voilà, moi je l'ai écrit en 2017, le livre. Je l'ai terminé fin 2017, donc j'ai même pas prêté garde à MeToo. Et en 2018, je l'ai envoyé dans une maison d'édition, j'avais un nom, parce qu'il faut un nom sur une enveloppe quand vous êtes une inconnue, suissesse, pas toute jeune, enfin voilà quoi. Et j'ai été convoquée très vite, au comité de lecture, ça avait passé, c'était vraiment une grande maison, et on m'a convoquée, on m'a fait plein de promesses. Et la personne qui avait reçu le livre avait donné sa démission, donc mon livre a été enterré, j'avais perdu un an.
Aïe, aïe, aïe.
Donc après, je l'ai beaucoup retravaillé, toute seule, à deux reprises, enfermée, cinq jours non-stop. Et puis j'ai eu quelques retours prometteurs, mais enfin voilà. Et j'ai laissé tomber tout ça. Et l'année dernière, en octobre, j'étais tellement désespérée parce que je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose qui tenait dans ce livre, même si je ne dis pas que c'est le roman du siècle et qu'il est extraordinaire, mais enfin, je trouvais que pour une fois, de tout ce que j'avais écrit, ça tenait, quoi. Il y avait quelque chose. Et en fait, j'étais si désespérée que j'ai tout brûlé. J'ai fait une photo et j'ai absolument tout brûlé. Enfin, j'ai supprimé. J'avais donc Les Figuiers, l'autre roman, qui était une histoire d'amitié entre une femme immigrée portugaise et une femme valaisanne. Et j'ai vidé la corbeille aussi pour plus jamais le voir.
Donc il a disparu à jamais, ce livre?
À jamais. En plus, j'ai changé l'ordi au mois de janvier, donc voilà, c'est terminé. J'ai eu un élan de lucidité parce que le thème de ce livre que je voulais écrire, en fait, j'avais pris des notes dans des agendas et j'ai gardé. Je les ai regardées la semaine dernière.
Vous allez pouvoir nous le refaire, alors.
En tout cas, peut-être en tirer quelque chose. Et à ce moment-là, en janvier l'année dernière, à nouveau, je me suis dit, écoute Sarah, écoute, là, recommence. Écris ce bouquin que tu veux écrire. Et on était fin janvier. Et je prends mon agenda et je mets des plages où il faut que j'aille plusieurs jours pour écrire. Donc, je me bloque des plages jusqu'en juin. Et en février, j'ai une interview de Robert Zettaler, que j'adore, Une vie entière, qui est vraiment un livre que j'ai adoré, qui est donc un auteur autrichien qui vit à Berlin, qui est donc chez Sabine Vespizer. Et l'interview se passe super, super bien. Il se passe un truc, on reste plus de deux heures ensemble. Enfin, ouais, c'est génial. Du coup, elle nous invite à manger que les deux. Et pendant qu'on se parlait, elle et moi, il nous interrompt, et il me regarde et il me dit « Du schreibst, tu écris ?» Et je lui dis « Oui, je suis journaliste. » Il me dit « Non. » Écrit des trucs. Et là, je me retrouve le 6 ou 7 février face à Sabine Vespizer, dont j'adorais vraiment tout ce qu'elle publiait, mais j'osais pas du tout lui envoyer mon bouquin, elle en publie 10 par an. Et je dis, j'ai un petit truc. Et elle me dit, écoute, sans promesse, envoie-le-moi. Et 8 jours après, elle m'a écrit pour me dire, me ferais-tu l'honneur de signer chez moi et je voudrais que tu sois un des romans de la rentrée.
Allez.
Paf. Et toutes les plages que j'avais gardées étaient OK pour recorriger, pour aller signer le contrat. Le 20 mars, fin avril, il était imprimé.
C'est fou, hein?
Et du coup, l'objet livre, quand je l'ai reçu, en plus, Sabine fait imprimer ses livres dans une petite imprimerie familiale. Et en fait, eux m'ont gardé le numéro 1, ils m'ont filmé et tout. Enfin voilà, ça a été en fait au-delà de mes rêves. Ça veut dire que je peux mourir maintenant.
On ne va pas faire ça. J'aimerais beaucoup que vous nous lisiez, comme c'est la tradition dans ce podcast, la première page de ce tout premier livre, si vous êtes d'accord.
Avec joie.
Une page assez dure, je préfère prévenir les auditeurs et auditrices.
Tout à coup, il a un fusil dans les mains. La minute d'avant, je le jure, on mangeait des pommes de terre, presque en silence. Ma sœur jacassait, comme souvent. Mon père disait « Elle peut pas la boucler, cette gamine !» Mais elle continuait ses babillages. Elle était naïve, joyeuse, un peu sotte, drôle et gentille. Elle apprenait tout avec lenteur à l'école. Elle ne sentait pas lorsque le souffle de mon père changeait, quand son regard annonçait qu'on allait prendre une bonne volée. Elle parlait sans fin. Moi, je vivais sur mes gardes. Je n'étais jamais tranquille. J'avais la trouille collée au corps en permanence. Je voyais la faiblesse de ma mère, la stupidité et la cruauté de mon père. Je voyais l'innocence de ma sœur aînée. Je voyais tout. Et je savais que je n'étais pas de la même trempe qu'eux. Ma faiblesse à moi, c'était l'orgueil. Un orgueil qui m'a tenue vaillante et debout. Il m'a perdue aussi. J'étais une enfant, je comprenais sans savoir.
Merci Sarah. Alors il y a un passage, c'est étonnant, c'est surprenant, dans lequel votre héroïne Jeanne fait la connaissance d'une jeune femme. Une jeune femme qui porte un vêtement qui résonne avec l'endroit où nous enregistrons ce podcast. Est-ce que vous voulez bien nous lire ce passage ?
Une fille pourtant m'avait follement déconcertée, peu après mon installation à Lausanne et le furtif émoi éprouvé pour Marine. Elle était irréelle tant elle ne ressemblait à rien de connu pour moi. Un jour, alors qu'elle retirait négligemment sa veste en cours, j'avais remarqué l'étiquette sur la doublure. Chanel. Aux parures vestimentaires non plus, je ne connaissais rien. Mais Chanel, c'était quelque chose. C'est pour les riches, sermonnait maman, lorsque Emma pipiait des trop beaux en feuilletant les pages mode dans un des magazines qu'une copine lui prêtait. Si Charlotte m'époustouflait, moi je l'intriguais. Ça, je l'ai senti tout de suite. Elle avait des manières, elle modulait la voix, elle riait en renversant la tête. Elle était intrépide, elle flirtait ou faisait semblant, avec tous, profs, garçons, filles. Elle s'absentait des jours, j'apprendrais par hasard qu'elle posait pour des photos. Tout en longueur et en membres interminables, elle n'était pas franchement jolie. Un visage d'oisillon, un nez trop épaté, des yeux trop enfoncés. Mais son éducation, ses origines, ses atours, ce qu'elle faisait de son physique la rendait irrésistible. Cette fille, c'était de l'esbrouf. Cette fille, c'était du cinéma. Et le cinéma, ce n'est pas exactement la vraie vie. J'aurais dû le savoir.
Merci beaucoup Sarah pour cette lecture. J'aimerais savoir à quoi ressemble votre rituel d'écriture. À quelle table vous êtes assise? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous regardez pendant que vous écrivez?
En fait, il y a différentes phases. Alors, j'ai un grand fantasme, c'est celui d'un bureau. Et en fait, j'ai découvert que j'adore être à la table de la cuisine. C'est génial, on est en train de construire une maison là. Du coup, j'ai un super bureau. Et je pense que je ferai que du yoga à l'intérieur. Parce que je me suis rendu compte que j'aime être... Enfin, on a une grande table et j'aime être au centre de la maison. Je pousse tout le soir ou quand j'ai fini d'écrire. Aucun bruit, jamais, jamais, jamais de bruit. Ça, je supporte pas, absolument pas de musique. Enfin voilà, j'aime là pour ce livre, en fait, comme c'était vraiment presque une urgence, parce que je voyais vraiment... Enfin, je vieillissais et il fallait que j'écrive. Donc j'ai vraiment... je me suis imposé un rythme parce que j'adore écrire le matin. Et donc, je me suis levée vers les 5 heures et à partir de 6h moins quart, 6h, j'écrivais jusqu'à 9h avant de travailler. Ou parfois, certains jours, bah, j'ai refusé certains mandats parce qu'il fallait que j'écrive plus. Après la phase où j'ai retravaillé toute seule, je me suis enfermée dans un chalet 2 fois, 4-5 jours à chaque fois. Et là, il n'y avait ni jour ni nuit. En fait, j'ai vraiment, pendant presque 18 heures, j'ai mangé des champignons en boîte. Un truc des champignons de Paris. J'allais marcher 2 fois par jour et je n'ai fait que relire à voix haute et corriger et beaucoup supprimer. Parce que comme vous le constatez, je suis très bavarde et je voulais que le livre ne soit pas bavard, que vraiment l'écriture colle à l'histoire, au lieu, à l'époque, que les mots ne soient pas trop beaux, alors que j'adore lire des écrivains, même prétentieux, j'adore la langue, j'aime différentes langues, différentes manières d'écrire, de parler, mais là, il fallait que ce soit vraiment en parfaite cohérence avec les années 70 en Valais, quoi.
Ouais, c'est ça, c'était la question que je voulais vous poser, parce qu'effectivement, votre écriture, elle est, je dirais pas non plus sèche, parce qu'il y a de l'émotion, il y a une fluidité, elle est même plutôt aquatique, je trouve, dans la façon dont elle coule. Mais effectivement, elle est très économe en adjectifs, en adverbes. Il y a beaucoup de phrases courtes, comme on a pu l'entendre dans le passage que vous avez lu. Et je me suis demandé si ça correspondait avec le caractère des Valaisans et Valaisannes que vous décrivez beaucoup dans votre livre comme un caractère très sec, très obstiné.
Mais en fait, en écrivant, tout d'un coup, tout devient plus clair parce que c'est comme si on voyait les choses où on avait du recul. Et évidemment, ça explique ce caractère des Valaisans avec aussi tout leur bon côté que je décris. La beauté des paysages, c'est une chose, mais aussi les valeurs. Il y a ce patriarcat qui est très, très fort encore chez nous. Il y a la religion, mais je ne voulais pas parler directement de religion. Donc, du coup, j'ai parlé des rites funéraires qui sont très importants. Et effectivement, je me rends compte que tout ça fait partie. On peut les fuir, mais en fait, ça fait vraiment partie.
S'ancrer en vous.
Oui. Mmh. Et là, un libraire m'a dit quelque chose qui m'a complètement. C'était il n'y a pas très longtemps à Dijon. Et il me dit, je crois que c'est catholique, parce que je crois que je ne le dis pas clairement, mais en fait, est-ce que c'est volontaire d'avoir utilisé des mots et du vocabulaire comme purifié? Enfin, il me donne quelques exemples vraiment qui découlent directement de la religion. En fait, je suis restée complètement stupéfaite. Et en fait, c'est tellement ancré en moi que...
C'est un geste inconscient.
Ah, complètement inconscient. J'avais pas fait attention.
Il y a une deuxième trame narrative très forte dans votre livre, c'est celle de l'ascension sociale. D'ailleurs, dans ce que vous venez de nous expliquer, on retrouve cette idée que vous êtes arrivé à un endroit qui est un ailleurs par rapport à l'endroit où vous êtes né, où vous avez passé votre enfance, mais que ce lieu d'origine reste ancré en vous. Et ça m'a fait penser à Annie Ernaux, qui est vraiment, je pense, l'écrivaine par excellence de l'ascension sociale, de la transfuge de classe. Il y a même aussi l'évocation de l'école normale, qui est quelque chose que votre personnage Jeanne a en commun avec Annie Ernaux. Est-ce que vous aviez en tête ce parallèle avec Annie Ernaux en écrivant ?
Non, parce qu'en fait, j'ai décrit vraiment la réalité. Dans mon canton, il n'y a pas d'université, il n'y en a toujours pas. Par contre, maintenant, on a de grandes écoles qui existent. Mais le fait de partir, de vouloir autre chose, c'était naturel. Et ce que je dis du Valais, j'avais quand même un tout petit peu peur. Je me suis dit, peut-être que certains Valaisans vont m'en vouloir. Mais en fait, c'est la réalité. Donc, c'est complètement concret. Et en fait, mon analyse... Elle n'a pas été émotionnelle, elle était comme une observatrice. J'ai décrit la société telle qu'elle était à cette époque-là. Et d'ailleurs, je ne m'attendais absolument pas à avoir un engouement comme ça de la part des Valaisans. Je pensais au contraire qu'ils allaient m'en vouloir, mais pas du tout, parce qu'en fait, c'était comme ça.
Ouais. Mais peut-être que justement, ce qu'il y a en commun avec Annie Ernaux, c'est que c'est ancré dans le réel, que c'est une histoire extrêmement intime et personnelle et qui devient universelle parce qu'elle résonne avec les vécus de beaucoup, beaucoup de personnes. Il y a aussi autre chose qui fait que votre livre s'ancre particulièrement dans l'actualité. Vous l'avez écrit donc en 2017, l'année de MeToo, mais vous n'en avez pas conscience que vous étiez en train de raisonner avec quelque chose qui se passait sur le plan mondial. Et de fait, il y a eu beaucoup de romans écrits autour de la violence masculine ces dernières années. Mais ce que je trouve fabuleux avec le vôtre, c'est qu'il propose tout un panel de réactions féminines à la violence. Il y a l'héroïne Jeanne qui observe, qui comprend et qui esquive la violence. Il y a sa sœur Emma qui n'est pas armée pour la comprendre, qui confond l'inceste et l'amour et qui donne au final son titre au livre avec cette phrase qu'elle glisse à sa sœur, j'étais sa préférée. Mais il y a aussi la mère qui serre les dents mais qui se tait. Et aussi les maîtresses de Jeanne qui n'ont pas été épargnées par la violence et qui réagissent par des façons complètement différentes. L'une la séduction, l'autre l'empathie. Je me suis demandé s'il y avait cette volonté justement de montrer dans ce livre qu'il y avait une multitude de façons, quand on est une femme, de s'adapter au patriarcat en fait et à l'environnement violent qui peut nous entourer parfois.
Volonté, je ne sais pas. En fait, je suis bavarde, mais je suis aussi très observatrice, très sociable et très solitaire. Et en fait, c'est simplement en observant les gens, les femmes. En fait, on peut chacune se retrouver un petit peu dans chacune. Alors, peut-être pas la mère qui était vraiment la femme d'une certaine époque. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas maintenant.
J'ai peur qu'elle corresponde à beaucoup, beaucoup de femmes encore aujourd'hui.
Alors moi, je vais vous dire la vérité. Je l'ai écrit donc en 2017. En 2019, je suis devenue bénévole une fois par semaine. Donc, je travaille comme bénévole dans un foyer qui accueille les femmes battues. On les accueille et elles peuvent se reposer là. Et ensuite, il y a des décisions qui se prennent. Et la plupart du temps, elles retournent chez elles. je me suis dit que ce livre était complètement démodé. Non, mais je sais, j'ai honte de le dire, mais je pensais que la parole était libérée.
Ça y est, c'est fini. Voilà, les femmes ont toutes échappé.
Oui, en fait, c'est bon, on a pu s'exprimer. Mais il y a une chose qui m'a bouleversée comme retour de lecteur, vraiment. En fait, le premier retour que j'ai eu dans un salon, c'était le premier retour qui n'était ni un libraire, ni une journaliste, ni la famille, quoi. Et c'est un homme qui arrive vers moi d'une septantaine d'années et qui, très chic, vraiment, cheveux de riche, blanc, enfin, vraiment l'anglais à la campagne. Mais là, les rives du Léman, voilà, assez bourges. Et qui dit, j'ai lu dans le temps l'article, j'ai acheté votre livre. Et là, je me suis dit, mais je veux me prendre. Mais il ne volait, quoi, le... Et là, le temps que je lève les yeux, il était en larmes. Il était avec sa femme. Et je reste comme ça. Et il me dit, en fait, il me raconte toute son histoire, d'où il venait, du Valais. Et il me dit, voilà, ça fait 52 ans qu'on est mariés. Et je n'ai jamais dit à ma femme ce que j'avais vécu. C'était un peu plus que des violences physiques. Et grâce à votre livre, j'ai pu en parler. Et en fait, ce week-end-là, j'ai eu, mais à chaque fois, j'ai des frissons, des hommes. Et depuis, j'ai... autant d'hommes qui viennent me parler et me dire, en fait, enfant, j'ai subi ça, oui. Mais je n'ose pas parler parce que pour eux, c'est encore plus difficile de le dire.
Bien sûr.
Mais oui, effectivement, je pensais qu'on en avait fini avec toute cette histoire.
J'aimerais qu'on explore la façon dont votre livre a été accueilli. Et dans votre cas, il a été acclamé. Vous avez reçu donc le prix du roman FNAC 2022. Vous avez aussi été sélectionné pour le Goncourt. C'est quand même assez fou pour un premier roman. Vous étiez finaliste du Goncourt des lycéens. Vous avez été lauréate en Suisse du Choix Goncourt de la Suisse 2022. Est-ce que vous vous attendiez à une telle ovation ?
Non. Quand j'ai signé le contrat avec Sabine, je vois 3500 exemplaires et je lui dis « Mais t'es complètement folle, est-ce que tu sais qu'un premier roman, c'est en 300 et 700 exemplaires ?» Elle me dit « Écoute, fais-moi confiance, Sarah, vraiment, 3500, je te promets, on va réussir. » Et là, on est à 45 000 vendus.
Waouh.
Voilà.
C'est énorme, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup pour un livre. Et le fait qu'il ait été apprécié aussi pour sa qualité d'écriture, je trouve que c'est une belle récompense de toute cette travail que vous avez mis, c'était aussi un moment éprouvant pour vous de travailler la forme de ce livre.
Oui, et surtout en Suisse où quand quelque chose marche, c'est comme si tout à coup, parce que ça marchait, ça veut dire que c'est trop populaire et que c'est mauvais. Donc j'ai eu des critiques, deux critiques absolument. C'est pas des critiques, c'est des pamphlets.
En Suisse.
En Suisse, ouais, vraiment. Où en fait, c'est l'histoire de Sarah et de sa sœur. Super, j'ai un frère. Bref, ce n'est pas autobiographique.
Ah
et
oui.
Il a parlé du glossaire et le fait que j'ai mis le mot chalet.
Je précise donc qu'à la fin du livre, il y a un petit glossaire, un petit répertoire de mots locaux que vous employez dans le livre. D'ailleurs, ça donne une dimension, je trouve, hyper didactique et intéressante à ce que vous racontez sur
et
le
Sabine,
Valais.
Sabine l'a déjà fait parce que c'est une amoureuse de la langue française. Elle publie des auteurs de différents horizons, notamment haïtiens. Et puis, moi, par exemple, je tiens à dire « je soupe » et pas « je dîne ». Et alors, on se moquait de moi dans la mode il y a 15 ans et aujourd'hui, mais c'est génial, en fait c'est le vrai mot. Et je trouve qu'il y a un retour en plus maintenant, ou peut-être que c'est moi qui suis sensible à tout ça. Donc c'était vraiment un amour de la langue.
Et justement, je voulais vous demander si vous aviez eu un accueil différent en France et en Suisse, donc vous me le confirmez.
Alors en Suisse, c'est vraiment, en Valais, c'est vraiment très très touchant, d'autant que moi je ne suis pas une Valaisanne type, parce qu'effectivement j'ai beaucoup renié certaines choses, je ne revivrai jamais dans ce village alors que ma famille, une partie de ma famille y est, parce que pour plein de raisons, hein, c'est pas que j'ai de mauvais souvenirs, mais c'est trop fermé, et en même temps, en m'y éloignant, en vieillissant aussi, je vois tous les bons côtés. Mais de manière générale, je ne m'attendais pas du tout à un accueil aussi, aussi chaleureux, quoi.
Est-ce que ça vous donne de la force pour écrire le deuxième ?
En fait, je ne sais pas si je vais être capable, parce que écrire ce livre-là, j'ai écrit plein de choses et c'est toujours très plaisant, mais ce livre-là, c'était... en fait, Jeanne, la scène, il y a une scène, un face-à-face avec son père. Et j'écrivais vraiment, ça coulait tout seul. Il y a des passages qui étaient plus compliqués, mais celui-là, en l'occurrence, c'était facile. Et tout se met en place avant que j'intègre, en fait, avant que je lise. Ça s'est écrit tout seul, vraiment. Il y a eu plusieurs scènes, hein, comme ça.
Peut-être que je vais faire une petite explication pour les auditeurs et auditrices en précisant que c'est un spoiler. Donc, si vous n'avez pas lu le livre, si vous avez envie de le lire, zappez les 3 prochaines minutes du podcast. Mais voilà, à la fin du livre, le père, donc violent, incestueux, demande pardon à sa fille Jeanne, alors qu'il va mourir. Il est clairement en train de vivre ses dernières heures. Et Jeanne lui crache à la figure. Et Marine, qui est la compagne de Jeanne, ne lui pardonne pas ce geste. Elle, qui n'est que empathie et compassion, ne lui pardonnera jamais le fait qu'elle ait refusé sur son lit de mort à son vieux père le pardon ultime. Et c'est vrai que ce geste, je me demande si c'est pas ce qui fait en fait toute la puissance du livre. On l'oublie pas. J'y ai repensé en fait à ce crachat.
Oui,
et vous dites qu'il a été, qu'il s'est presque accompli malgré vous, quoi.
Ah non, pas presque, vraiment. Et j'ai un ami qui est journaliste et il m'appelle et me dit « Alors, ton bouquin, ça avance ?» Je lui fais « Tu sais, mais là, le personnage a fait un geste épouvantable. » Puis il me dit « Mais enfin, Sarah,
c'est toi qui l'écris.
Tu m'écris, c'est pas compliqué quand même. » Et je lui dis « Mais non !» Et en fait, je pouvais pas effacer. Mm-hmm. Donc la question, je ne sais pas si je vais pouvoir écrire dans cet état, quoi.
Alors, il faut que ça s'impose à vous, en fait. Si voilà. Ça ne vous attrape pas, vous
mais est-ce
vous
que ça revient et tout ?
Alors, on va finir par le petit questionnaire final rituel de ce podcast. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine ?
En fait, un peu comme Jeanne, quand elle écrit son livre, que vraiment, dans la solitude, tout à coup, d'autres que moi pouvaient ressentir la même chose.
Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous ?
Que Jeanne est plus proche de moi que ce que je veux bien dire.
Quelle est votre idée du bonheur parfait ?
La simplicité, en fait. Un peu de solitude, un peu de vin, un peu de yoga. Ma famille, mes amis, voilà. Et de la lecture, évidemment. Mais pas mal de solitude, ça, c'est le bonheur parfait.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité ?
Ah, de le faire. Just do it. Il ne faut pas réfléchir.
Just do it, j'adore.
C'est ça.
En un mot, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine ?
Comme quelqu'un de vrai.
À quoi ressemblera ce deuxième roman ?
Un roman, mais je m'en rends compte maintenant que j'ai écrit ce premier, qui sont incarnés dans le réel. J'aime bien mélanger les deux. Pas que je n'aime pas l'autofiction, j'adore lire, mais ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire, mais j'aime bien mélanger les deux.
Merci beaucoup, Sarah.
Merci.
Merci infiniment.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt.